Bonjour à tous. On est un petit peu en retard, donc on va commencer. Bienvenue pour cette table ronde sur les réalités augmentées. La question qu'on va se poser, c'est ce qu'il y avait, et si bientôt il n'y avait plus vraiment de frontières entre le réel et le virtuel. Et je vais peut-être commencer par vous proposer un petit exercice de pensée. On va essayer d'imaginer les utopiales de demain ou d'après-demain. Et donc, en gros, on va explorer deux hypothèses. Est-ce que demain, vous serez là devant nous avec des Google Glass ou équivalent, en train de nous écouter? Peut-être qu'il y aura des informations au-dessus de la tête de chaque intervenant. Peut-être même qu'ils auront programmé un espèce d'avatar pour être plus beaux qu'ils ne le sont. Ils sont très beaux, hein, n'est-ce pas? Et si peut-être que si vous vous ennuyez, peut-être que vos Google Glass vous diront « Attendez, là-bas, il y a quelque chose d'intéressant. Vous pouvez peut-être vous déplacer et aller voir. » Première hypothèse. Deuxième hypothèse, est-ce qu'au contraire, vous serez tranquillement assis dans votre fauteuil chez vous avec une interface de réalité virtuelle telle qu'elle soit, donc vous n'aurez pas payé de billets de train, vous n'aurez pas d'hôtel pour ceux qui viennent de loin, vous serez tranquillement chez vous en train de regarder les mêmes personnes, ou plutôt sans doute pour le coup vraiment leur avatar, à voir, à débattre. Et alors là, vous pourrez partir absolument quand vous voulez, puisqu'on vous verra même pas, ou on verra juste des connexions se déconnecter. Alors pour évoquer ces deux possibilités, on a trois scientifiques et deux écrivains. Donc je vais commencer par Agnès. Agnès est docteur en médecine et en sciences à l'INSERM. Tes travaux portent sur la neurophysiologie clinique, le contrôle moteur des mouvements plutôt du membre supérieur. Enfin, tu nous raconteras tout ça tout à l'heure. Chez des patients handicapés qui présentent des lésions. Et sur le développement de l'évaluation technologique de d'assistance et de rééducation. Donc tu travailles avec de la robotique et de la réalité augmentée. Donc je vais présenter tout le monde. Et puis, on a Laurent Genefort, ici présent, qui est écrivain fort prolifique dans le domaine du space opéra. Donc pas forcément avec un gros rapport avec la table ronde, mais la réalité virtuelle s'est immiscée dans le space opéra assez fortement récemment. On se souvient que tu as obtenu il y a très longtemps le prix de l'imaginaire, il y a déjà 20 ans je crois, ce qui... Et ton dernier opus, L'Humaine, est nominé pour les deux grands prix qui sont donnés aux Utopiales. Donc tu imagines des futurs plutôt très lointains, dans lesquels la réalité virtuelle a peut-être son rôle à jouer. Eric, donc un deuxième médecin, tu es professeur d'informatique médicale, j'ai failli dire militaire, je ne sais pas pourquoi, à l'université de Brest, chirurgien orthopédiste et docteur en ingénierie biomédicale. Tu as un cursus donc assez multidisciplinaire, qui te place un peu au centre d'une application concrète et actuelle des réalités augmentées, donc du débat qu'on a aujourd'hui. Tu intègres dans ta pratique chirurgicale l'assistance par ordinateur et tu vas nous en parler incessamment. Alain, tu es écrivain, tu es auteur entre autres du best-seller La Horde du Contrevent. Plus récemment et plus lié avec le sujet de la table ronde, tu as initié la création d'un univers transmédia science-fiction qui s'appelle Fusion. Ta nouvelle d'ailleurs dans l'anthologie qui est disponible du festival se passe dans cet univers-là. Tu as également sonorisé l'univers de ton prochain roman qui s'appelle Les Furtifs. Donc on peut ainsi dire, je pense qu'on peut dire que tu t'attaches aujourd'hui en particulier à augmenter la réalité de tes romans. Tu nous en parleras sans doute tout à l'heure. Et enfin, Eric Stindel ou Stindel? Non, pardon. J'ai pas dit ton nom de famille tout à l'heure. Stéphane Lemouelic, pardon. Tu es ingénieur de recherche au CNRS et tu travailles sur diverses missions spatiales dont vous avez sans doute entendu les noms. Mars Express qui orbite autour de la planète, Curiosity qui roule dessus, Cassini qui tourne autour de Saturne et même Philae qui est posé sur la comète Chury dont vous avez sans doute entendu parler. Tu as développé un système de rendu immersif, donc de réalité virtuelle qui permet de visiter ces endroits lointains qui s'appelle VR2 Planets et qui est, je crois, en démonstration dans la salle D, c'est quelque part par là-bas. Donc voilà nos cinq intervenants et je vous propose pour commencer de voir un exemple concret de donc ma première hypothèse, plutôt Google Glass et utilisation d'outils informatiques dans une situation très concrète avec nos deux médecins. Et donc j'aimerais que vous nous parliez un peu de vos travaux et de l'utilisation qu'on fait aujourd'hui de la réalité augmentée dans la pratique médicale. Et vous avez, je sais, plein de choses à raconter sur la question.
Alors en fait... Alors en fait, bon, je travaille mes travaux sur la réalité augmentée sont plus proches de l'assistance aux personnes handicapées. Et il y a eu énormément de travaux qui ont été faits sur la substitution sensorielle. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un a perdu la vue, on peut essayer de lui redonner un sens de la vision, de la détection, de la forme des objets augmentés. éloignée avec par une autre voie sensorielle, par exemple le tact ou l'audition. Et alors, on peut également favoriser la rééducation des personnes handicapées en leur proposant des exercices, en les accompagnant, par exemple, en sonifiant les exercices, en les exercices qui peuvent générer du son. Et la réalité virtuelle est aussi énormément utilisée en psychiatrie pour, par exemple, désensibiliser les personnes qui ont une phobie, par exemple, aux araignées, c'est-à-dire en leur présentant des araignées de façon contrôlée et progressive. Ou alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les personnes qui ont des difficultés de communication, par exemple les autistes, peuvent être avoir une communication facilitée par le biais d'avatars. Donc il y a énormément d'expériences médicales actuellement en cours et en développement concernant la réalité virtuelle et augmentée.
Eric ?
Alors, dans le domaine de la chirurgie, c'est pareil, on a plusieurs contraintes. On a une première contrainte, c'est qu'il faut former les gens. Et qu'il y a une grande tendance. C'est vrai qu'on a tous un peu peur de se dire que le chirurgien, c'est finalement la première fois qu'il va vous opérer, parce qu'à un moment, il faut commencer, et qu'on aimerait bien pouvoir commencer dans d'autres environnements, c'est-à-dire avant le patient, sur des environnements virtuels. La vraie limite aujourd'hui de ces environnements virtuels, parce que je les ai à peu près tous essayés au fur et à mesure qu'ils arrivent depuis 15 ans, c'est la contrainte de précision, qui est la deuxième contrainte qu'on a. Aujourd'hui, on a des environnements virtuels qui permettent de jouer, qui permettent de se déplacer dans des mondes reconstitués, qui permettent pas d'opérer parce qu'ils permettent pas, ils ont pas la précision suffisante. Là, on parle de, quand je vous opère, c'est à quelques millimètres et quelques degrés près. Et ça, les environnements virtuels, ils touchent un petit peu leurs limites à ce niveau-là. Et pour situer un petit peu la complexité de la chose, il y a une dizaine d'années, j'étais dans un congrès d'anatomistes et on parlait des premiers simulateurs chirurgicaux. Et les gens qui étaient là disaient, il faudra, c'était à l'époque, c'était en francs, il faudra 10 millions de francs et 10 ans pour avoir un simulateur chirurgical réaliste. Et aujourd'hui, quand je vais dans les structure un peu équivalente, on dit il faudra 10 ans et 10 millions d'euros. Donc ça situe le niveau de complexité. Mais par contre, au quotidien, on a intégré, je dirais presque le degré zéro du fantasme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans Matrix, mais on a aujourd'hui au bloc opératoire des ordinateurs qui augmentent quelque part notre réalité sans être complètement virtuel. C'est-à-dire qu'on est capable de projeter de l'information qui vient de l'imagerie médicale, qu'on a numérisé, passé en trois dimensions et sur laquelle on a fait des calculs, et on va utiliser ces calculs que en chirurgie traditionnelle on ne dispose pas de, dont on ne dispose pas. Donc finalement on est déjà, la porte est ouverte, la tendance elle est là. 10 ans, 10 millions d'euros ou peut-être plus, peut-être 100, mais la porte est largement ouverte.
On va continuer sur l'exploration spatiale. Donc là, c'est plutôt la deuxième hypothèse, comme les mondes que tu explores sont trop lointains pour être entre guillemets réels. Tu dois les amener à toi et donc utiliser des simulateurs complets de monde virtuel en fait. Alors, est-ce que tu peux nous raconter la pratique
dans notre domaine, la réalité virtuelle, ça fait partie des recherches en cours. C'est un outil très puissant, mais qui est encore à l'état de recherche et de prototype. L'idée dans notre domaine, c'est un peu que les robots, les sondes spatiales que l'on envoie dans l'espace, quelque part sont nos yeux et nos bras, mais à part très peu d'entre nous, il y a très peu de chances que l'on puisse un jour aller en personne à la surface de Mars. Vous avez peut-être vu le film « Seul sur Mars ». Ceux qui ne sont pas allés le voir, je vous conseille. C'est un bon film. C'est très difficile de se rendre sur place sur les planètes. Il y a 12 hommes qui ont marché sur la Lune et point final. Donc la réalité virtuelle, pour nous, ça peut être un outil qui nous permet, non pas de marcher sur Mars, mais de ramener Mars à la maison pour faire en sorte qu'on vive quelque part les émotions ou en tout cas qu'on le ressente, ce qu'un astronaute sur place pourrait lui-même ressentir. J'ai eu l'occasion de tester un système, c'était un prototype assez exploratoire lors d'un séjour à la NASA, un système où on vous met un casque sur la tête, un casque de réalité virtuelle. Donc vous chaussez le casque et vous vous retrouvez en fait à côté du rover Curiosity qui est modélisé en 3D à vos côtés, et sur place vous avez les cailloux martiens qui ont été imagés par le rover au jour J, et vous pouvez marcher, donc vous éloignez du rover, aller voir un caillou là-bas, aller voir un autre caillou à tel endroit, et en fait vous vous retrouvez finalement comme si vous étiez à côté du robot lui-même. Et dans ce test, ce qui était intéressant, c'est qu'on devait identifier la distance des cailloux et voir sur un écran d'ordinateur, avant de passer dans le simulateur, voir si on arrivait à bien comprendre le site, qu'est-ce qui était loin, qu'est-ce qui était devant, qu'est-ce qui était derrière. Et donc on passait sur l'écran d'ordinateur, puis ensuite on allait dans le système de réalité virtuelle. Et ce que les ingénieurs nous ont montré, c'est qu'en fait, avec un simple écran d'ordinateur, on est trompé. On est trompé par les perspectives. Sur Mars, il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de maison, on n'a aucun repère, donc on n'a pas d'idée des distances. Quand vous chaussez le casque de réalité virtuelle et que vous marchez pour aller jusqu'à un caillou, vous vous rendez compte de la distance. Donc on a une bien meilleure appréhension en fait, de la réalité distante, mais on comprend bien mieux l'environnement avec ces systèmes de réalité virtuelle.
Je peux t'interrompre juste parce que j'ai peut-être déjà un exemple. Tu t'as fait un geste comme ça pour le rover, il est vraiment si grand que ça ?
Le rover Curiosity fait 2 mètres de haut.
Ouais, bah, tu vois, sur les photos, moi j'ai l'impression qu'il est grand comme ça. Donc on a déjà concrètement...
Et justement, quand vous êtes à côté avec votre casque de réalité virtuelle, vous pouvez vous mesurer à lui. Moi, j'ai vu que je ne faisais pas 2 mètres. Vous pouvez vous baisser pour aller regarder sous le rover. Vous pouvez aller regarder l'état des roues. Vous pouvez aller regarder beaucoup de choses. C'est une expérience qui est assez incroyable. Et quand vous sortez de là, vous vous dites, mon écran d'ordinateur, dans 10 ans, il va terminer dans un musée. Ça ne servira plus à rien quand vous pouvez être à côté. Alors après, il y a d'autres débats sur le côté. Effectivement, vous avez l'air un peu bête avec votre casque sur la tête. Vous ne voyez plus les gens qui sont autour de vous. Donc ça, c'est d'autres débats psychologiques qu'on aura peut-être au cours de cette table ronde. Mais c'est une expérience assez intéressante. Et juste pour terminer, on envisage aussi dans l'équipe de Curiosity d'utiliser un système, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler, des lunettes HoloLens de Microsoft. Donc des lunettes que vous chaussez et qui vont permettre de superposer au réel des éléments virtuels. Et notamment, dans l'équipe de Curiosity, il y a des tests en cours qui sont faits pour qu'on fasse des réunions virtuelles avec tous les scientifiques qui participent à la mission pour être... En fait, on travaille au jour le jour. Curiosity, un jour donné, nous envoie les images, on les analyse et on a le reste de la journée pour programmer ce qu'il va faire le lendemain. Et là, l'idée, c'est d'utiliser ce système pour qu'on soit à plusieurs sur l'environnement qui a été imagé la veille et qu'on puisse se promener avec des avatars, en vrai, autour des cailloux pour dire ensemble avec les scientifiques, regarde, celui-là, il me paraît très intéressant, j'aimerais bien qu'on l'analyse demain avec la foreuse, le microscope, tout ça. Ou viens voir, on va aller voir tel autre. Et donc, il y a des tests qui ont été faits, premiers tests, qui ont été faits au printemps, et on envisage de mettre ça en route pour peut-être l'année prochaine. Si ça ne marche pas, ce sera plus tard, peut-être pour le prochain rover en 2020.
Ça fait vraiment envie quand tu racontes ça de se promener sur Mars et de... Je sais pas, Laurent et Alain, est-ce que vous avez déjà des questions sur ce qui vient d'être dit, ou alors peut-être est-ce que vous pouvez prolonger la vision actuelle de l'utilisation de la réalité virtuelle? À votre avis, ça va où dans un futur plus lointain?
Ça va où? Le rôle de la SF, elle est de mettre ça en récit en fait, et de voir les problèmes. c'est ça surtout. C'est-à-dire que c'est tout de suite quand je pense à des univers reconstitués comme ça, je me dis qu'est-ce que ça peut induire comme manipulation? Qu'est-ce que ça peut induire comme est-ce qu'il peut y avoir des allergies à ça, c'est-à-dire des gens qui perçoit de façon déformée systématiquement tel ou tel point de la simulation, etc. Moi, c'est ça que ça m'inspire, c'est que c'est une matrice d'histoire extraordinaire, je trouve, la réalité augmentée et le virtuel d'une manière générale. Mais la réalité augmentée.
Pour rebondir un petit peu là-dessus, il y a des choses assez surprenantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux devant la réalité virtuelle et devant la 3D. À tel point que l'INSERM lance un certain nombre de travaux, et il y a un certain nombre de laboratoires qui travaillent là-dessus, qui est la façon dont le cerveau réagit au stimulus 3D. Et il y a toute une partie de la population qui est dans cette salle qui, si on les expose à de la 3D, vont avoir un accident de voiture en sortant. Parce qu'on est dans un des environnements particuliers, le cerveau réagit de façon particulière, et on sait aujourd'hui à peine, et on commence à explorer ça avec de l'IRM fonctionnel, on expose les gens à des stimulus 3D, on les expose à du 2D, et on voit que le cerveau derrière, il réagit pas du tout pareil, et que il y a des gens susceptibles de développer des pathologies dans des environnements immersifs de cet ordre-là. Et c'est tout un pan aussi de neurosciences actuellement qui est en cours d'exploration, parce qu'on est là aussi pas tous égaux, mais
rassure-moi, ça ne s'applique pas au cinéma en 3D. Hein.
Si, absolument.
Méfiez-vous. Oui,
absolument. Hein. D'ailleurs, dans le consortium scientifique, le groupe d'intérêt scientifique, il y a Canal+ dedans. Puisque le retour, le feedback, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre, Et ensuite, c'est effectivement en travaillant sur les caractéristiques de l'image 3D, c'est-à-dire les focales et les distances de vision et tout ça, qu'on est, les vitesses d'exposition des stimulus entre l'œil droit et l'œil gauche, qu'on est capable de fournir des recommandations pour faire en sorte que le film ne soit pas trop perturbant. Donc ça intéresse l'industrie du cinéma au plus haut point.
Oui, ben...
Pour rebondir sur le rebond, je pense que la technologie qu'on utilise est très importante. Et la maturité du système technologique qu'on utilise est très importante aussi. Moi, j'aurais été curieux de poser la question, je ne sais pas si le modérateur sera d'accord, dans la salle, pour savoir qui a déjà testé un casque de réalité virtuelle. Est-ce que vous pourriez lever la main, ceux qui ont testé un casque ?
Entièrement d'accord. Alors, on a un public un peu captif qui vient aux Utopiales. Mais...
Il n'y a pas un biais de recrutement quand même dans le panel ?
C'est pas mal. Alors, ceux qui ont pu tester, certains comprendront, d'autres qui n'ont pas testé ne comprendront pas, mais il y a différents systèmes de rendu. Moi, j'ai pu tester le casque Oculus Rift première version. Le système que j'avais vu à la NASA, c'était ça. Puis j'ai testé le casque deuxième version. Il y a des défauts qui sont corrigés avec les nouvelles générations de casques. Dans un des premiers systèmes que j'avais essayé, quand on tournait la tête, l'image suivait, mais avec un léger décalage, ce qui donnait exactement la même impression que lorsque vous avez bu 3 ou 4 Guinness au bar et que vous sortez du bar, effectivement, vous avez une impression bizarre, vous ne vous sentez pas bien. Ces défauts sont corrigés dans les systèmes les plus performants actuels avec un bon ordinateur, et ce problème de tête qui tourne n'a plus lieu. Donc, je pense qu'on n'est pas encore, au niveau technologique, à l'instrument parfait. Et notamment, là, en médecine, il y a énormément de choses à travailler pour arriver à ne plus ressentir ces effets néfastes.
Et donc, tu n'es pas encore complètement sûr qu'on va jeter nos écrans à la poubelle comme
pas tout de suite.
D'accord. Alain, tu...
Oui, moi, j'ai envie de parler de tout ça d'un point de vue plus, peut-être plus philosophique ou même métaphysique. Moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que j'ai l'impression que c'est une tendance très profonde de l'espèce humaine. Moi, j'ai été frappé par un livre de Sloterdijk, c'est un philosophe allemand que j'aime beaucoup, qui s'appelle La domestication de l'être, et dans lequel il dit, bon, l'être humain a toujours été dans un environnement technique, l'être humain est même arrivé au monde et même a été mis au monde avec la technique. Et il dit, la technique, voilà, c'est ce qui fait que de nous des humains. Et parmi les deux choses qui nous ont hominisés, il en a deux que je trouve vraiment, vraiment très, très intéressantes pour la réalité augmentée, justement. C'est la première, ce qu'il appelle l'insulation. C'est-à-dire que l'espèce humaine, pour se protéger de la concurrence, pour se protéger de l'agressivité, a toujours aménagé des sortes de clairières. Lui, il appelle ça des utérus externes ou des couveuses entrouvertes. C'est-à-dire qu'on protège les petits et on protège son environnement en aménageant les espaces. Et l'autre, il dit, la deuxième chose, il dit, on descend pas du cygne, on descend pas du singe, on descend de la pierre. C'est-à-dire qu'il dit, l'action à distance qu'on a quand on jette une pierre et qu'on touche un oiseau, cette faculté-là et cette ouverture-là, c'est la suspension du corps. C'est-à-dire que le corps n'a pas besoin d'agir directement sur le réel, il peut lancer à distance et il agit sur le monde. Et il dit, ces deux choses-là, elles nous ont constitués. Et moi, la réalité augmentée, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est l'étape ultime de ça, c'est-à-dire que c'est l'insulation à sa puissance 3 ou 4, c'est-à-dire qu'on aménage un réel, on s'aménage un monde, une sorte de serre comme ça, une sorte d'utérus externe, dans lequel on s'insère et dans lequel on va pouvoir agir. Et ça, je pense, cette pulsion magique, cette pulsion... déificatrice, un peu démiurge, elle était là depuis toujours. Et je pense que c'est ce qui nous fascine beaucoup là-dessus. En même temps, comme disait Laurent, il y a un vrai piège et une vraie manipulation potentielle, c'est que en s'isolant, en nous isolant, et notamment moi j'ai expérimenté aussi le casque, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la coupure corporelle avec l'espace autour et avec les autres. C'est-à-dire qu'on me coupe, je suis assis sur une chaise, on me coupe de tout ce qui se passe. Quand on est face à l'écran ou face à un smartphone, une tablette, on est en fait en co-réalité, c'est-à-dire qu'il y a une première réalité qui est celle de l'écran, puis il y a une deuxième réalité qui est ce qu'on vit à côté. Quand on est vraiment en réalité augmentée, on est totalement immergé. C'est-à-dire qu'on se coupe, on est dans un réel qui détermine ce qu'on va, à partir de ce moment-là, percevoir et vivre. Et du coup, on imagine très bien ce qu'on peut en faire, et la première des choses, effectivement, c'est, on l'a dit, c'est commercial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on simplifie l'espace, le réel, et qu'on aménage un espace anthropisé total, dans lequel on va circuler, qu'est-ce qui va se passer ? On va effectivement injecter, on va capter l'attention pour injecter des pubs, des actes d'achat potentiels, etc. Et moi, l'aspect démocratisation, moi je trouve ça génial, ce qui se passe sur Mars, ce qui se passe en chirurgie, c'est fantastique, mais en tant qu'auteur de SF et en tant qu'auteur de SF qui travaille beaucoup sur l'aspect sociologique, ce qui m'intéresse, c'est comment ça va être démocratisé et pour faire quoi ? Et on sent bien venir le truc. C'est-à-dire que moi, chaque fois qu'on me dit réalité augmentée, je dis, ok, réalité augmentée, mais qu'est-ce que ça diminue ? Qu'est-ce que ça appauvrit ? Tu vois ? Parce que ça va être une réalité en fait simplifiée. Et dans cette simplification, on va maximiser la capture d'attention, qui est l'enjeu fondamental du capitalisme cognitif actuel. C'est-à-dire comment on peut voler l'attention des gens, comment on peut capter l'attention des gens pour leur vendre des produits. C'est à ça qu'on est soumis sur Internet en permanence. Et c'est ce que la réalité augmentée, moi j'ai peur qu'elle devienne très vite, c'est-à-dire une simplification du réel avec outil de captation maximale de notre attention.
Voilà. Est-ce que tu envisages des façons d'éviter ça? Je pense par exemple à Internet au début était absolument démocratique, on voit qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas, mais il y avait des standards, enfin c'est plus du tout le cas. Ça peut encore être le cas dans certaines niches, mais le marché est envahi, si on peut dire. Est-ce qu'il ne faudrait pas un standard mondial libre de droit, libre d'accès de réalité virtuelle? Et donc je pose la question, et peut-être les scientifiques, je ne sais pas si vous avez des idées de est-ce que ça va arriver, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur l'idée, et je pense surtout au monde académique, à l'idée d'avoir des standards.
Il y a un combat, il y a un combat de format incroyable sur les casques déjà, sur les... non?
Il y a un moi, je n'ai pas peur de ça, en fait. Ouais. Voilà, je travaille avec Windows, je n'ai pas peur de le dire. Pourtant, c'est pareil, il y a des débats là-dessus, est-ce qu'il faut Windows, Linux ou autre. Je pense qu'il y aura des utilisations commerciales aussi, c'est évident. Moi, j'imagine ça comme... comme le cinéma, le film. Voilà, effectivement, quand on va au cinéma, on s'immerge dans un film aussi, pendant 2 heures, voilà, on ne voit que ça. Au début du film, y a des pubs, effectivement, c'est vrai. Mais voilà, le cinéma me fait voyager. Et les quelques expériences que j'ai eues avec ces casques de réalité virtuelle, j'ai eu l'impression de voyager. Au bout d'un moment, effectivement, on a aussi envie d'enlever le casque pour retrouver ses proches. Je pense... On n'est pas là, c'est un autre débat qu'on aura peut-être tout à l'heure. On n'est pas encore dans l'hypothèse 2, c'est-à-dire on chausse le casque le matin au réveil et puis on l'enlève le soir pour dormir, pour vivre sa vie. Mais je pense que comme tout nouveau moyen technologique important, peut-être comme Internet, comme un téléphone portable, il y aura du bon, il y aura de l'utilisation un peu détournée, mais moi je vois ça plutôt comme quelque chose d'une révolution positive.
Agnès?
Alors, il y a deux choses importantes, c'est le rôle du corps, parce que vous avez parlé en fait d'une coupure amenée par la réalité virtuelle par rapport au corps. Mais je crois que c'est effectivement très important, parce que toutes les expériences de réalité virtuelle montrent qu'il y a besoin d'un feedback haptique, et par exemple tous les simulateurs de vol ou de déplacement, l'impression du rendu qu'on sent pas seulement avec la main mais avec tout le corps est extrêmement important, et je pense que c'est un peu une utopie de penser que c'est le cerveau qui va commander la réalité virtuelle. En fait, c'est tout notre corps qui interagit. Mais par contre, ce que vous avez dit aussi par rapport à la captation d'attention et au capitalisme cognitif, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'un des dangers, c'est peut-être que ces techniques de réalité virtuelle nous coupent de la société, de nos semblables, et nous enferment en fait dans un espèce de monde un peu autiste.
Mais est-ce qu'elles ont... Il y a une raison particulière pour que ça soit différent du reste. C'est-à-dire que ce n'est ni plus ni moins que un nouvel outil, c'est-à-dire qu'on a rajouté une dimension, on a rajouté des dimensions. Les dimensions sensorielles vont être aussi importantes, mais finalement, ce mode d'utilisation des technologies, on le connaît depuis très longtemps, et cette espèce de captation, elle est là sur Internet, elle est là dans le téléphone, elle est là dans la télévision. Le cinéma, certes, nous immerge quand on est dans l'espace protégé de la salle de cinéma. Quand on ouvre sa télévision, on est totalement... Enfin, l'œuvre est hachée.
Elle est même là dans les livres de Laurent ou de Alain.
Oui, pour moi, il y a une grosse différence quand même.
Enfin, oui, moi aussi. Ouais. Ouais. C'est que déjà, on est. Je crois que ça généralise une sorte de sensorium technologique. Donc, où l'interface homme-machine, elle interviendra du lever au coucher, ce qui n'est quand même pas le cas. C'est-à-dire que quand on marche dans la rue,
je regarde ma fille,
le bombardement. Oui,
elle ouvre un œil droit pour le téléphone et elle ferme le gauche à 2h du matin après avoir regardé le téléphone, et elle passe la journée dessus dans l'immersion de l'interface. Donc le concept même d'immersion dans de l'information électronique, numérique, elle est déjà là. Elle va changer de forme, mais c'est
oui,
tout.
Oui, c'est vrai. Mais alors, par contre, elle n'était pas aussi multiforme que ce que promet la réalité augmentée.
Je suis d'accord.
Et disons, c'est un sensorium qui est, pour le coup, je rejoins Alain, qui est un sensorium qui sera marchand dans la mesure où, comme il offrira des services, le service se paiera d'une manière ou d'une autre, et comme il sera très probablement offert entre guillemets. Le produit, bah, ce sera nous, hein, comme ce qui est le cas. Et donc à partir du moment où tout ce qu'on ressent, que ce soit visuel, auditif, passe par l'intermédiaire de quelque chose, la réalité, elle sera réellement contaminée par le virtuel. Pour le coup, on n'y coupera pas. Et ça fait aussi, je pensais aussi à une sorte de formatage de l'esprit. C'est-à-dire que il y aura des règles. C'est-à-dire qu'il va falloir apprivoiser la réalité augmentée. C'est quelque chose qu'il va falloir apprivoiser. Ça va offrir des outils qu'on ne connaît pas encore. Donc ça va, rien que le fait d'avoir une montre, ça divise le temps de la journée en un certain nombre d'heures. Ça me conditionne à avoir une certaine pensée du temps.
Cadran solaire est assez ancien, quoi.
Oui. Mais là d'avoir des chiffres, c'est différent. Qui bouge sous tes yeux, c'est différent.
Ces concepts-là sont très anciens.
Oui, les concepts, oui. Mais en fait, l'application systématique et globalisante fait que c'est un formatage qui n'aura jamais été aussi serré, quoi. Une sorte de grille qui n'aura jamais été aussi serrée.
Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a deux aspects, parce que quand on parle de réalité augmentée, il y a soit l'aspect effectivement Google Glass où tu as un calque d'informations supplémentaires dans ton champ perceptif, mais tu restes globalement dans le réel. Et puis tu as l'immersion vraiment avec le casque. Et là, je suis complètement d'accord avec Laurent, c'est un sensorium, c'est-à-dire que là, il y a une coupure totale. On est immergé dans un espace où on ne voit plus les autres. On ne voit plus l'environnement, on ne voit plus les autres, on voit l'environnement qu'on a décidé de voir à l'intérieur du casque, quoi. Et là, oui, il y a une vraie coupure. Il y a une coupure qu'on peut pas nier et qui est une reconstruction complètement du réel, quoi. Donc, pour moi, il y a une co-réalité qui est le cas de, oui, j'ai mon smartphone dans la main et je regarde le monde, ou j'ai mon casque sur les oreilles et puis je suis dans le métro et je regarde les autres. Donc, j'ai un réel qui est le réel de la musique plus le réel que je vois en face, ou j'ai un système de réalité parallèle, quoi. Moi, je dis para-réel ou pas-réel, je sais pas, quoi, dans lequel je m'immerge et j'ai le casque. Et là, oui, c'est, à mon avis, le saut qualitatif est très important, quoi. Je suis d'accord sur Google Glass que c'est juste, à la rigueur, c'est une couche supplémentaire.
Mais
vraiment, le casque, ouais, là, on passe à autre chose, je pense.
Et on ira peut-être même plus loin.
Le casque,
c'est un seul sens. On peut facilement rajouter le son.
On ira peut-être dans des questions d'isolation avec.
Non, puis même, j'allais dire aussi, le sensorium, ce sera aussi. Les relations qui seront tissées entre les objets intelligents autour de soi et soit c'est pas uniquement de regarder quelque chose de passif, c'est-à-dire que l'environnement il deviendra actif par rapport à soi. Et là il y a quelque chose qui diffère fondamentalement de ce qui existait avant. C'est-à-dire que on exerçait ses facultés conscientes sur des objets inanimés d'une certaine manière. Pas quelque chose qui pouvait réagir par rapport à sa présence, comportement, etc. Et là, cette relation homme-machine, elle va générer une nouvelle grammaire corporelle, une nouvelle, des nouvelles façons de penser. Encore une fois, je ne suis pas dans un sens négatif quand je pense ça. Toute technologie est neutre et donc on en fait ce qu'on veut et on en fait ce que la politique en fera aussi. J'imagine très bien une réalité qui puisse être hackée par des dissidents ou donc ça peut être aussi très positif, ou par des artistes tout simplement. C'est parce que ça ouvre des outils formidables du réel, quoi. Moi, je trouve que je crois que Philippe K. Dick a jamais été aussi actuel, et je pense que c'est vraiment un auteur du futur pour le coup à ce niveau-là. Peut-être pas dans le sens où il l'avait pensé, mais ces objets qui vont nous parler et qui vont comme ça tisser des nouvelles significations autour de nous. C'est finalement la SF, elle est dedans depuis 50 ans.
Il y a un aspect aussi intéressant sur le plan artistique, parce que j'ai eu l'occasion de le faire l'expérience au CNC avec une stéréographe qui s'appelle Joséphine de Robe, qui est vraiment une spécialiste du relief. Et on se posait la question artistique de dire qu'est-ce que ça apporte de faire un spectacle, un film ou une expérience à l'intérieur de la réalité virtuelle. Et moi, ce qui m'a frappé quand j'ai fait la simulation, c'est que le moment où j'ai été le plus inclus dans la réalité virtuelle, dans cette réalité-là, c'était un moment où j'étais dans une yourte, comme ça, j'étais posé exactement comme je suis posé là sur le fauteuil, et je tourne la tête, et à la hauteur à peu près de Laurent, j'avais une mongole comme ça qui me regardait. C'est-à-dire que la coprésence d'un être humain dans mon espace qui me regarde, tout d'un coup a créé un effet de réel absolument prodigieux, quoi. Et avant de faire ça, j'étais en train de planer au-dessus de la Terre à très grande vitesse. J'étais au fond de l'océan avec des requins ou avec des fonds marins. et ça me touchait pas, j'étais pas dedans, j'étais pas dans un réel, j'étais à la foire ou à la fête foraine, quoi. Et tout d'un coup, dans cette urne posée, tu vois, simplement et en tournant la tête, tout d'un coup, j'ai eu l'effet. Et c'est là que je me suis dit, c'est incroyable comme le rapport humain, comme la présence de l'autre dans le même espace est la clé du réel pour nous, en tout cas du réel crédible. Quoi.
Le réel, voilà. C'est les autres.
C'est le réel, c'est les autres. Ah ouais, c'est marrant. Hein. Et ça je me suis dit, tiens, si on travaille là-dessus artistiquement, il faut vraiment mettre les... Voilà.
Tu t'es pas dit que ta mongole, ça pouvait être un PNJ, éventuellement?
Ouais, mais c'était un PNJ, je pense. Mais...
T'es sûr?
C'est... Mais intéressant, voilà, ouais, le réel c'est les autres, c'est exactement ça, je trouve.
Agnès, à table, tout à l'heure, tu nous disais que Philippe Cadic n'était pas étranger à...
Oui, je crois que si je m'intéresse maintenant à l'interaction homme-machine, c'est parce que j'ai lu Philippe Cadic quand j'étais adolescente, ça c'est certain.
La boucle est bouclée. J'ai envie de vous demander aux deux docteurs, quelles sont les avancées futures et à quelle échéance, à quoi on peut s'attendre? Je pense qu'on l'a assez bien vu pour la question spatiale. À quoi on peut s'attendre dans les 10-20 années à venir sur l'invasion des techniques virtuelles ou assistées par ordinateur dans les salles de chirurgie?
Alors, c'est ce que je disais en préambule, elle va venir par l'aspect formation très clairement au départ, parce qu'on a des contraintes de précision de temps réel qui sont nettement inférieures.
Je pensais vraiment pour le malade.
Voilà. pour toi, pour le malade, c'est clé, parce que si j'ai été mal formé, tu vas voir que ça va vraiment mal se passer. Donc l'aspect formation, il est fondamental, c'est la base de tout le reste. Après, une fois que j'ai été à peu près bien formé ou le mieux possible, au bloc opératoire, c'est clairement le transfert de l'imagerie médicale comme non plus un outil de diagnostic, mais un outil de guidage. C'est-à-dire, c'est d'avoir, en même temps qu'on a le patient, et c'est toute la difficulté, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on a le patient, on a le monde virtuel reconstruit à partir de ces images pré-op. Et tout se passe très bien, à la seule et unique condition, c'est qu'on soit capable de mettre en correspondance les deux, c'est-à-dire le vrai patient, parce qu'à la fin de la soirée, c'est lui qui a mal quand même, c'est lui qui saigne, c'est pas son image. Et son image. Et quand il faut être capable de les mettre en correspondance au millimètre et au degré près, quoi. Et c'est toute la difficulté du truc. Donc, tant qu'on n'est pas capable d'avoir cette précision dans le recalage des deux représentations, finalement, enfin, il y a une représentation de la réalité qui est l'image et la réalité qui est le patient. Si on n'est pas capable de faire correspondre les deux, on ne peut pas les opérer en utilisant la fusion d'informations, c'est-à-dire la quintessence des deux trucs. Donc aujourd'hui, on reste à des degrés finalement assez bas d'utilisation de ces images virtuelles, parce que justement, on ne les met pas en correspondance de façon assez précise. Mais sinon, après, l'idée, c'est de se dire que si on est capable de les mettre en correspondance, à la limite, on n'a plus vraiment besoin d'ouvrir. Puisqu'on est capable de voir ce qu'il y a dedans sans ouvrir pour voir. Alors aujourd'hui, vous savez tous qu'une appendicite, il y a 10 ans, on avait une cicatrice comme ça. Ou il y a 20 ans. Il y a 10 ans, on en avait une comme ça. Et maintenant, on a un truc plus petit que mon petit doigt. Ça veut dire qu'on ne rentre pas l'œil du chirurgien. On ne le sort pas pour le rentrer dans le ventre et voir quelque chose. Mais on utilise de la technologie pour voir ce qu'on n'est plus capable de voir. En orthopédie, c'est pareil. Quand on remet une prothèse, il faut être capable. C'est ce que je dis souvent aux étudiants. Vous prenez une baguette de pain, vous mettez une nappe dessus, et puis vous essayez de mettre un couteau ou quelque chose à 1 degré et 1 millimètre près sans voir ce qui se passe sous la nappe. C'est ça la chirurgie orthopédique du futur. C'est-à-dire qu'on va ramener de l'information, on va permettre au chirurgien de voir ce qu'il fait sous la nappe et au millimètre près. Donc il faut que ça se passe bien, il faut qu'il ait été bien formé. On y vient tout doucement. Et le nœud aujourd'hui, c'est le recalage, c'est la mise en correspondance.
Agnès, tu...
Alors, je pense que les technologies vont avoir beaucoup d'importance pour la compensation du handicap, l'assistance et la rééducation dans l'avenir. Alors, ce qui me semble un des points clés, c'est, je crois, l'apprentissage. Parce que, bon, par exemple, quand on pense à des prothèses, on peut, avec des techniques robotiques actuelles, rajouter de l'intelligence, de l'adaptation aux prothèses qui vont être plus faciles à commander. Mais ça va pas être quelque chose de miraculeux. C'est-à-dire, la machine va pas venir se substituer à une fonction manquante immédiatement façon Robocop. Mais il y a, l'humain doit apprendre, on doit apprendre à utiliser nos outils, que ce soit des outils basiques comme une raquette de tennis ou un marteau, mais également tous les outils robotique adaptée que l'on peut vous mettre à disposition, qu'on pourra mettre à disposition de plus en plus à l'avenir. Et je crois que, enfin, Laurent, c'est bien ça, a dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire les objets vont s'adapter à nous. Et c'est, effectivement, c'est des questions qu'on se pose, c'est-à-dire que l'homme et la machine vont devoir co-manipuler des objets. Et la question, c'est de savoir, est-ce parce qu'on peut trouver des modes de commande qui vont anticiper ce que l'humain va faire, mais quelque part après, on va finir par ne plus se rendre compte de cette adaptation progressive. Et c'est des questions qu'on se pose en robotique de rééducation. C'est-à-dire que la personne peut avoir envie d'essayer de faire un mouvement, de pas y arriver parce qu'elle est à moitié paralysée. C'est le robot qui va amener vers la fin du mouvement. Et donc, on va avoir une assistance. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut faire ça pour faire répéter le bon mouvement, ou alors au contraire, est-ce qu'il faut introduire des perturbations qui vont faire prendre conscience à la personne qu'il se passe quelque chose, et elle va donc corriger volontairement. Donc, je pense que cette question de partage de commandes, et ce qui en résulte aussi, c'est le partage de sensations entre l'humain et la machine, ça va être une question un peu clé.
Peut-être une dernière question avant de demander si le public n'en a pas d'autres. Quels sont les autres domaines dans lesquels on peut s'attendre à voir arriver massivement la réalité virtuelle? On a vu la santé, ça arrive, bon, l'exploration spatiale. Est-ce que vous avez une idée d'autres endroits où il faut qu'on se...
Le divertissement, très clairement.
Oui, voilà,
dans le domaine artistique, je pense que ça va être les prochaines installations au niveau de l'art contemporain. Déjà, il y a des choses très, très chouettes qui sont faites. Là, moi, j'ai eu l'occasion de voir un projet magnifique qui s'appelle Enemy, comme ça, où tu incarnes en fait un soldat palestinien ou israélien. Tu es dans un casque, tu te balades dans un espace comme ça de qui est un espace de musée, quoi. Et tout d'un coup apparaît l'avatar de l'ennemi, et tu es en situation de te confronter à l'ennemi, quoi. Et c'est avec une double réalité comme ça, virtuelle en temps réel, enfin des choses assez complexes, assez pointues, mais qui posent un enjeu de fond. Quand c'est guidé, je trouve, par un enjeu émotionnel ou philosophique ou humain, je trouve que ça peut prendre un sens assez... Et il commence à y avoir des projets comme ça, vraiment sur la réalité virtuelle, avec des choses intéressantes. Ouais.
T'avais une autre... Tu pensais à la même chose ?
Oui, je pense au divertissement. Mais en fait, je pense que toutes les activités humaines peuvent bénéficier de la réalité augmentée. Il n'y a pas de raison qu'il y ait... À partir du moment où on manipule des objets et où on regarde des choses... C'est la réalité augmentée, elle peut apporter des choses, solidifier entre guillemets des données comme ça dans sa vision liées à voilà quoi. Donc oui je pense que tout ça risque de se généraliser. Ouais.
Préparez-vous donc. Je voudrais savoir si dans le public il y a des gens qui ont des questions pour nos orateurs. Oui.
Oui, bonjour. Alors, c'était super. Franchement, il n'y a rien à dire. Et vos voix virtuelles sont bien arrivées jusqu'à moi. vous n'avez pas peur qu'il peut se passer le même effet qu'il y a eu Stendhal au moment qu'il a visité la Santa Cruz? Un effet de sidération, quand on se retrouve dans l'image, d'un seul coup, on s'effondre, on n'est plus psychologiquement apte à pouvoir garder ses sensations pour soi. Enfin, voilà. La fatigue, en fait, une fatigue spirituelle. Ensuite... Il y avait Guy Debord qui avait fait la philosophie du spectacle. Et je pense qu'on va au bout de son principe, parce qu'il va y avoir certainement de l'intrusion de quelqu'un qui est derrière les manettes, quelqu'un qui nous forcera à voir ce qu'on voit. Et puis, troisième chose, l'être humain, il fonctionne avec... c'est un élément de la nature, et la nature fonctionne sous le principe du moindre effort. Si on se contente de regarder, parce qu'il va y avoir une hiérarchie des sens. Les yeux, le regard sera le sens principal, avec l'ouïe certainement aussi. Et s'il y a une hiérarchie des sens, à ce moment-là, est-ce qu'on n'aura plus envie, on n'aura plus les intentions qui nous forcent à aller jusqu'à Mars, qui nous obligent à vouloir découvrir ce qu'il y a derrière un trou noir, si on peut virtualiser le trou noir? Voilà mes questions.
Trois questions, la sidération, le spectacle.
Moi je suis assez d'accord avec toi, et j'ai un peu ce feeling. Moi simplement, c'est pas l'aboutissement de la société du spectacle, je pense que c'est l'aboutissement de comme je le disais là, de l'insulation humaine, c'est-à-dire de la faculté que l'homme a à se créer des mondes parfaitement adaptés à lui, parfaitement anthropisés, humain trop humain. Moi je dis toujours, déjà c'est le cas sur les architectures, sur les villes, sur les environnements qu'on se crée, mais là on atteint l'étape ultime, on est vraiment les démiurges, on crée le réel dont on a envie. et on s'immerge volontairement dedans comme dans une couveuse comme ça, qui n'est même plus entrouverte, qui est vraiment fermée. Donc ça, oui, avec toute la conjuration de l'altérité que ça a, et moi, quand tu parles de Mars, est-ce que ça ne coupera pas l'envie d'y aller, etc. Moi, je dis, c'est le rapport au désir. À partir du moment où on te crée un monde qui est entièrement façonné pour ce que tu veux, quel est ton rapport à l'altérité, ton rapport à l'autre, ton rapport à l'inconnu, ton rapport à ce qui te dérange, ton rapport à ce qui te perturbe? Forcément, tu le limites, tu le simplifies. Et effectivement, la plupart des techno-outils apparaissent. Ça, pour moi, je pense que c'est une ligne de fond. La fameuse LME, loi du moindre effort. Effectivement, moi, je trouve que c'est quand même tendanciellement à partir de ça qu'on nous vend énormément de choses. Et c'est très bateau de dire ça, mais c'est malheureusement une sacrée putain de tendance de fond quand même, quoi. Et je vois pas comment la réalité augmentée échapperait à ça. D'où la simplification, effectivement, non pas d'augmentation du réel, mais simplification. Et donc ça me fait un peu peur. Et ensuite, il y a l'aspect corporel, mais qui est corrélé pour moi, parce que c'est le corps qui, pour moi, amène l'altérité la plupart du temps. Et on a une dominante déjà massive de l'optique, du visuel dans nos sociétés. Hein. On est capté par... pareil, quand on ouvre les yeux, 80% de l'information qui nous arrive vient de l'optique. Bon, on a saturé ça, et la publicité a saturé ça. Il y a un peu de son, et puis on oublie le goût, on oublie le toucher, on oublie la kinesthésie, on oublie le rapport physique au monde. Moi, tu vois, je reviens à la question que tu as posée au début et que je trouvais très intéressante, c'est de dire, est-ce que finalement, dans le futur, d'être chez soi à vivre cette conférence avec un casque, c'est pas finalement aussi bien que d'être ici? Ben, moi, je peux vous dire que je pense que c'est absolument différent et qu'on se ment en croyant qu'on reconstitue un réel proche de ce qui se passe là. Ici, il se passe énormément de choses, on entend bruisser, il y a du vent, il y a des mouvements, il y a une chaleur, il y a des ondes. Il y a des perceptions corporelles, il y a des fatigues. On sent qu'il se... Vous voyez, moi je suis sur la scène, je sens énormément de choses qui se passent dans le public. Il y a des formes de silence. J'étais chez moi à écouter cette conférence ou à parler avec mon casque. Il est évident que tout ce qui se passe dans ce réel-là ne passerait pas, quoi. Et je pense que ce réel-là est extrêmement puissant, qu'on a tendance à le minorer énormément depuis l'apparition des nouvelles technologies. On croit que le fameux engramme, comme dit Stigler, c'est-à-dire la faculté à enregistrer le réel et à le restituer, que ce soit le son ou l'image, on croit que l'engramme vaut finalement le réel ou simule adéquatement le réel. Moi, je crois qu'on en est très loin, en fait, quoi. Et qu'on va le mesurer au fur et à mesure, quoi.
Alors moi, je ne suis pas si sûr que toi que les capteurs... on arrive quand même à des degrés de définition, que ce soit optique ou audio ou haptique, d'une manière générale, quand même d'une bonne... et de mieux en mieux. Et va se poser, à mon avis, vraiment la problématique de qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas, à partir d'un certain... degré de réalisme.
On a quand même beaucoup de mal sur les retours haptiques, quoi. On sait encore
oui,
très
pour le
très
moment,
modeste,
mais
quoi.
Pour le moment, mais ça va. Moi, je pense que ça progresse à pas de géant. Moi, je trouve que ça progresse à pas de géant. Maintenant, sur la question qui était posée, oui, il y a dans Neuromancien déjà dans les années 80, il y avait les low-tech qui refusent le réseau global et qui anticipe les néoludites de maintenant, qui est un retour à la matière, quoi. On veut faire les choses nous-mêmes, et voilà, ouais. DIY, quoi. C'est voilà. Mais je suis pas, pour le coup, aussi pessimiste. Moi, je pense qu'il y a des.
Non, mais c'est pas du pessimisme. Moi, c'est très clair, c'est que c'est pas du pessimisme. C'est simplement
tout est réappropriable.
Au contraire, que le réel tel qu'on le vit est déjà hyper puissant, quoi. Et sachons l'éprouver, quoi, simplement. C'est-à-dire qu'on se vit toujours avec la technologie comme en manque de quelque chose. Réalité augmentée, c'est comme si la réalité n'était pas suffisante. Pour moi, la réalité, elle a une puissance et une présence et une prégnance extraordinaire qui fait que sachons déjà l'endosser, l'éprouver et la vivre, quoi, tout simplement. C'est pas une question de pessimisme du tout par rapport à ça.
Stéphane, tu voulais peut-être me dire si tu voulais quand même aller sur Mars ou pas, alors.
Voilà. Est-ce qu'on voudra toujours aller sur Mars? Pour moi, la réponse est oui, parce que votre monde virtuel, vous ne le créerez pas à partir de rien. Donc s'il n'y a rien qui est sur Mars pour vous prendre des images, vous prendre des modèles 3D et tout ça, vous n'aurez rien à la maison. Est-ce qu'on voudra prendre le risque? Ça fait partie de la nature humaine, c'est une expérience différente, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est une expérience qui est différente. Ça sera peut-être un peu des deux, c'est-à-dire on envisage, certains chercheurs travaillent là-dessus, d'envoyer un astronaute non pas sur Mars, parce que c'est très dur de le ramener, il faut poser une fusée pour pouvoir repartir, mais de l'envoyer sur Phobos, le satellite naturel de Mars. Parce que depuis Phobos, il pourrait, avec un casque de réalité virtuelle, contrôler un robot qui serait à la surface en temps réel, quasiment. Ce qu'il ne peut pas faire depuis la Terre, à cause de la distance qui fait qu'il faut au moins 4 minutes pour envoyer un ordre. Donc pour moi, c'est complémentaire. Et sur l'aspect humain, c'est pareil. Nous, dans notre domaine en sciences, on est souvent amené à aller à l'autre bout du monde, à des conférences scientifiques. C'est extrêmement enrichissant d'un point de vue humain. On échange nos résultats et tout ça. Et il se passe aussi beaucoup de choses pas forcément dans les présentations elles-mêmes, mais après ou avant, quand on va manger avant ou quand on va boire un café avec les collègues après. Dans les systèmes virtuels, pour l'instant, ne me permettent pas d'aller boire un café en parallèle de la réunion virtuelle qui est prévue. Ça serait une bonne idée de l'implémenter pour les développeurs. Mais je pense que c'est complémentaire parce qu'on ne peut pas non plus être 25 fois aux États-Unis par an. Et donc, en parallèle des rencontres réelles, humaines, eh bien, on utilise des moyens technologiques les plus développés possibles, souvent le téléphone, Internet, si possible la réalité virtuelle, pour faire des réunions où on intervient ponctuellement, mais effectivement, à la fin de notre intervention, on n'est plus là.
Est-ce qu'on a d'autres questions ?
Bonjour, j'avais une question pour revenir sur le sujet de Mars. J'ai lu un livre, c'était un guide touristique sur Mars, ça s'appelait Sur Mars. Voilà, je l'ai lu, j'ai beaucoup apprécié. Dernièrement, j'ai vu le film Seul sur Mars en 3D, j'ai beaucoup apprécié aussi. Et j'ai quand même encore envie d'envoyer des explorateurs ou peut-être d'aller sur Mars si la technologie le permet un jour. Ma question, c'était celle-ci. Est-ce que le roman, puisqu'on a Laurent et Alain avec nous, est-ce que le roman n'est-il pas la première réalité augmentée ou réalité virtuelle ?
Alors, j'ai vu pas mal de mains levées, donc essayez de répondre brièvement.
Alors, pas une réalité augmentée, mais une réalité virtuelle. Oui, clairement, c'est une... Le roman est un espace de simulation quelque part. Et la science-fiction a cette caractéristique, enfin, cette spécificité par rapport à la littérature générale, par exemple, que c'est une... Et encore, pas forcément d'ailleurs, que c'est en soi une expérience mentale qui se déroule à l'intérieur d'un univers simulé qui est une Terre du futur ou du passé ou etc. Donc oui, on est dans un cadre de simulation quelque part, ouais. Une simulation de mots, mais
ouais,
donc avec la force de la métaphore en plus.
Ce qui est fou, c'est que c'est la forme la plus sommaire et la plus sobre, c'est des lettres noires sur une page blanche, c'est rien, quoi. Et moi je dis toujours, le roman c'est l'art du cerveau, quoi, parce que à partir de ces petits mots là, ces petites lettres, ces petits graphes, on s'adresse au cerveau et le cerveau va reconstituer la totalité des sensations, quoi. C'est-à-dire, en écriture, tu peux manifester la chaleur, la fatigue, le poids, la vision, l'audition, etc. Tous les sens et bien au-delà. Alors que les autres sens passent par une dominante. Tu veux dire, le film passe par l'audiovisuel, la musique par le son pur. Et reconstitue les autres sensations par rapport à un vecteur sensoriel premier. Le roman, c'est l'art du cerveau parce que voilà, tu pars de le plus abstrait et pourtant tu redistribues sur tous les sens. D'où la puissance très grande, à mon sens, de la littérature et même la supériorité presque ontologique de la littérature sur les autres arts parce que on n'a pas besoin de passer par un sens dominant pour accéder. Mais bon, je suis écrivain, donc c'est...
on se doutait.
C'est normal.
Stéphane, t'en penses quoi ? Moi, je vais aller très vite dans le sens des écrivains. Je pense que les romans nous aident à penser plus loin que ce que l'on peut faire avec nos outils actuels. Et je peux prendre juste un exemple. Je ne sais pas si vous avez lu le roman De la Terre à la Lune de Jules Verne. Mais c'est hallucinant. Quand on lit Jules Verne, on voit qu'il fait partir trois astronautes dans un boulet vers la Lune. Et il les fait partir d'un point qui est juste à côté de Cap Canaveral. Alors, quand vous lisez ça et que vous voyez ce qui s'est passé 100 ans plus tard, vous vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est les ingénieurs qui ont lu Jules Verne qui se sont dit, ah bah oui, c'est pas bête de partir de Cap Canaveral et on va en mettre trois ? Ou est-ce que c'était lui qui était très bien documenté pour l'époque 1880, 1860, 70 ? Je pense qu'il y a une émulation entre justement des gens capables d'imaginer des choses incroyables et puis derrière les chercheurs, les techniciens, les ingénieurs qui se disent, bah ouais, des chaussures qui se lassent toutes seules en appuyant comme ça, vous avez peut-être vu Retour vers le futur récemment, c'est une bonne idée. J'ai appris que Nike venait de les mettre sur le marché. Il n'y a qu'un prototype, il doit coûter cher, mais je pense que c'est vraiment une émulation entre les deux mondes.
Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'on peut arriver, on peut encore lire du Jules Verne alors même qu'on a marché sur la Lune.
Oui.
C'est ça, voilà, c'est la supériorité de la littérature, elle est là en fait. C'est qu'elle transcende en fait même son sujet.
Une autre question ?
Moi j'ai une question qui rejoint un peu ce qu'on disait à l'instant. Vous disiez que les casques de réalité virtuelle risquaient de nous isoler, mais de mon point de vue, on ne peut pas occulter le fait que la lecture, c'est une des activités les plus solitaires qui existent. Et on a tous été confrontés au fait qu'on était happé par le livre, quelqu'un nous parle et on ne l'entend pas, on ne voit absolument pas ce qui se passe autour de nous, on ne voit pas le temps passer. De mon point de vue, il n'y a pas beaucoup de différence entre la lecture d'un livre qui fait appel à quand on arrive à se mettre dans cet état à tous les sens, et un casque de réalité virtuelle qui va venir, j'imagine, dans les années à venir, à utiliser tous les sens.
Ben, le roman, il est censé apporter du beau. Et c'est ça le deal avec le lecteur. C'est qu'on lui prend son temps, mais on lui donne quelque chose que la réalité ne peut pas lui donner. La réalité brute ne lui donne pas. Et c'est pour ça que si la réalité virtuelle est capable de faire ça, et je pense qu'elle en est capable, bah pourquoi pas d'ailleurs. C'est, voilà, pourquoi pas. Alors j'ai été très peu traité de la réalité virtuelle dans mes romans. Ça fait parce que je fais du space opéra et donc je suis beaucoup trop occupé à sonder l'univers réel entre guillemets, c'est-à-dire les planètes lointaines que la nouvelle frontière numérique. Mais j'ai intégré dans ma civilisation du futur le fait que les arts ont évolué et moi j'appelle ça les virtus drama. Voilà, et de temps en temps les personnages vont vivre une vie, enfin vont s'immerger dans une œuvre virtuelle, voilà. Mais que ça fait partie de comme ils iraient lire un bouquin, quoi. Donc voilà, il n'y a pas d'antagonisme en fait.
Okay, je suis un peu obligé de couper les questions là parce qu'on a encore trois petites choses à faire ensemble. La première, c'est que j'aimerais vous reposer la question du début, mais je rajoute une hypothèse, donc qui est l'hypothèse zéro. On garde les utopiales telles qu'elles sont, sans réalité augmentée, comme ça. Donc hypothèse zéro, hypothèse un, réalité augmentée avec des Google Glass ou quelque chose comme ça. Vous venez quand même ici, vous avez du contenu additionnel disponible un peu partout. Et hypothèse deux, vous les faites chez vous tranquillement dans votre fauteuil de réalité virtuelle. Donc qui est pour la deuxième hypothèse, réalité virtuelle totale ? Je m'en doutais.
C'est plié.
Alors, pour la première hypothèse, un peu de contenu en plus sur du... D'accord. Et qui est pour rester comme ça ? 50-50, quoi. Ok. La deuxième chose que je dois vous dire, c'est que je pense que vous pouvez retrouver Laurent et toi, Alain aussi, en dédicace juste après la fin de la table ronde. Qui est terminé, mais je vous demande de rester parce qu'on a une petite vidéo qui va se caler là. C'est un message de Thomas Pesquet, qui est astronaute ESA, qui part dans l'espace en 2016 et qui va réaliser des expériences. Donc il est un peu à la frontière entre les deux sujets là. Donc il part dans l'espace, hein, et il va faire des expériences de santé, en particulier en relation avec l'INSERM. Et il nous a adressé un petit message aux Utopiales qui devrait arriver.
Bonjour, je suis Thomas Pesquet, astronaute de l'Agence spatiale européenne. Je pars pour 6 mois dans l'espace en novembre 2016 à bord de la Station spatiale internationale. Alors je voulais souhaiter le bonjour et la bienvenue aux participants des Utopiales 2015. 6 mois dans l'espace dans la Station spatiale qui tourne autour de la Terre en 12 minutes Paris-New York. Ça, c'est de la science-fiction, on est bien d'accord. Il y a 20 ans, c'était pas possible et pourtant aujourd'hui, c'est la réalité. Eh ben nous, dans le spatial, ça a toujours été comme ça. On réalise ce que la science-fiction a prévu 20 ans avant. Et puis, j'espère bien que ça va continuer parce qu'une mission vers Mars, c'était de la science-fiction. Et puis moi, peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de participer à ça, si, peut-être en tant qu'astronaute ou alors je le verrai de mon vivant. Donc je vous encourage à continuer à rêver et puis à imaginer des choses que nous, on aura à cœur de réaliser. Voilà, merci et bon festival.
Bon, je ne sais pas si c'était pour Thomas ou pour nos auditeurs, mais en tout cas, merci à vous cinq d'avoir participé à cette table ronde et on laisse la place à la suivante.